BFM Stratégie avec Frédéric Simotel sur BFM Business.
Bienvenue dans cette nouvelle session BFM Stratégie. On va s'intéresser à un sujet, le décrochage scolaire. Alors certainement, voilà, vous avez certainement des enfants, si ce n'est chez vous, enfin autour de vous, et vous entendez souvent ce terme de décrochage scolaire. Eh bien, figurez-vous qu'il est assez important. Chaque année, c'est 76 000 jeunes qui quittent le système scolaire sans diplôme, c'est-à-dire après la troisième. Eh bien, ils partent. Alors, voilà, il est né en apprentissage, peut-être. Enfin, en tout cas, ils partent sans vraiment diplôme. Donc, c'est quand même un sujet important. Alors, c'est un chiffre qui a légèrement baissé, mais qui reste quand même très important sur environ 600 000 jeunes qui poursuivent leur scolarité. Et figurez-vous que pourquoi il faut s'y intéresser ? Parce que si on calcule un coût par décrocheur, ça peut atteindre 340 000 euros. Alors, comment éviter ces 340 000 euros multipliés par 76 000 jeunes ? On va en parler avec nos deux invités. Benjamin Sarda, partenaire au BCG, bonjour.
Bonjour Frédéric.
Benjamin, merci d'être avec nous. Et Lucie Robieux, bonjour Lucie.
Bonjour.
Vous êtes directrice du plaidoyer des relations extérieures à Apprenti d'Auteuil. Alors, je vais démarrer avec vous, justement, Lucie. La bonne nouvelle, c'est que le nombre de décrocheurs est en baisse, je l'ai dit très rapidement. De 11% en 2012, il est passé à 7,6%. Mais si je regarde clairement les chiffres, ça reste quand même près de 80 000 jeunes, enfants, qui sont en décrochage.
Tout à fait. Ce chiffre est vraiment préoccupant à l'échelle de notre société. En fait, on est dans la situation où on peut en même temps se réjouir de la décrue que vous avez soulignée. Cette décrue, on la doit vraiment à une action de long terme amorcée à la fin des années 2000 par l'Éducation nationale, et évidemment qui a été complétée par l'action d'autres acteurs privés, notamment associatifs. La Fondation Apprenti d'Auteuil innove tous les jours au sein de ses 60 établissements pour ses 8000 élèves décrocheurs, avec ses 800 enseignants qui tous les jours tentent de combattre.
On est capable d'évaluer quand est-ce qu'ils décrochent un peu, est-ce qu'ils décrochent vraiment au collège ou est-ce qu'ils décrochent beaucoup plus tôt?
Ils peuvent décrocher vraiment tôt. Ce qu'on observe, nous, sur le terrain, c'est qu'un élève peut déjà être en difficulté d'accrochage scolaire dès l'âge de la maternelle, voire primaire.
Donc après, on le porte tant qu'on peut.
Exactement, ce qui invite donc une action vraiment précoce à l'échelle du parcours scolaire. On observe aussi qu'en 2025, il y a de plus en plus de filles qui sont concernées par ce décrochage. Là où il y a encore 20 ou 25 ans, c'était un phénomène essentiellement masculin. Et puis, on a des adolescents qui, au lieu de décrocher vers 15-16 ans, c'est-à-dire aux portes de l'apprentissage professionnel, décrochent de plus en plus tôt. Ouais. Ce qui, en fait, montre que les modalités de décrochage scolaire évoluent et qu'il faut qu'on continue de s'en préoccuper.
Oui, et puis derrière, c'est l'isolement, de la précarité. Enfin, à partir de l'auteur, vous connaissez ça, isolement, précarité, la santé mentale aussi, dont on parle beaucoup.
Exactement, des difficultés d'insertion sociale et professionnelle. Apprenti d'Auteuil, ce qu'on voit, c'est que ce phénomène de décrochage scolaire, il est précurseur d'une très grande difficulté d'insertion économique, sociale, et que donc on ne peut pas fermer les yeux. C'est vraiment une affaire collective d'endiguer ce phénomène le plus tôt possible.
Et c'est ça qui est intéressant avec ce que vous avez mis en place au sein du BCG, c'est que de chiffrer ça. Et c'est vrai que quand on met un chiffre économique derrière, voilà, il y a la partie sociale qui est importante, mais là, 340 000 euros par élève décrocheur. Que recouvre exactement ce chiffre, Benjamin Sarda ?
C'est un chiffre qu'il faut expliquer, effectivement. Ouais. C'est 340 000 euros, c'est le coût pour la société du décrochage scolaire. Comment est-ce qu'on l'a calculé ? On a comparé, d'une part, les populations qu'on qualifie de décrocheurs, c'est-à-dire des gens qui vont jusqu'au brevet, mais qui n'ont pas de formation au-delà du brevet, avec ce que paye comme impôt, ce que coûte et ce que cotisent les gens qui ont fait des études. La différence entre les deux groupes, elle est énorme, c'est 26 milliards par an. Ouais. Divisé par le nombre de décrocheurs, c'est 340 000 euros par décrocheur.
Et d'ailleurs, on est sur BFM Business, donc c'est pour ça qu'on parle de ces chiffres, mais ça veut dire derrière qu'on a les cotisations non perçues. Enfin voilà, tout ce qu'un travailleur plus classique rapporterait à la fois lui-même, mais aussi au système collectif.
Quoi. Exactement. En fait, ce chiffre, il se compose principalement de ce manque à gagner fiscal. C'est-à-dire que les gens qui n'ont pas de formation accèdent plus difficilement à l'emploi, et donc bénéficient par exemple d'aides au chômage, qui sont un peu inférieures quand on a été formé, mais aussi, et vous le dites très justement, cotisent moins, soit directement, soit à travers la TVA, simplement parce qu'ils gagnent moins d'argent.
Alors vous aviez déjà fait ce calcul il y a pratiquement une quinzaine d'années, c'était aux alentours de 200 000 euros. Qu'est-ce qui explique un peu la vie en hausse, etc., mais qu'est-ce qui explique cet écart
Le chiffre de 2012, c'était 230 000 euros, et alors vous avez raison, la première partie de l'écart, c'est de l'inflation, et je pense que tout le monde se souvient qu'on a eu quelques années d'inflation post-Covid un peu musclée. Malheureusement, ce n'est pas que de l'inflation. il y a à peu près un tiers de cet écart qui s'explique parce que la différence entre les deux populations, donc la population de décrocheurs et le reste de la population, cet écart s'est aggravé. Pour le dire simplement, c'est plus compliqué de ne pas avoir de diplôme et d'être un décrocheur en 2025 que ça ne l'était en 2012. On a plus de difficultés à accéder à l'emploi, on a plus de risques de précarité aiguë. Et donc tout ça, ça génère simplement plus de coûts pour la communauté, en plus de la détresse sociale évidemment que ça génère auprès des décrocheurs.
Et puis, ce serait intéressant de voir la pression du numérique aussi autour de tout ça. Enfin, voilà, je suis sûr qu'on peut regarder aussi ça de près. Lucie Robieux, justement, on a donc réussi à réduire en partie ce décrochage. Mais c'est quoi les solutions qui fonctionnent? Comment on évite ce décrochage? Alors, si on le prend de plus en plus tôt, ça c'est bien, on l'a compris, mais est-ce qu'il y a d'autres bonnes pratiques?
Absolument. En fait, c'est quand même un phénomène qu'on commence à bien cerner, à bien comprendre. À Apprenti Dodeuil, on sait que ça tient à une combinaison de différents leviers. Celui de s'intéresser au projet vraiment personnel de chaque élève, de chaque jeune, de comprendre sa situation, de comprendre ses freins, de parler d'orientation aussi avec lui. On a aussi...
Assez tôt, pensez à partir de quelle heure, à quel âge un enfant peut être, pas mature, parce que voilà, il faudra attendre quelques années, mais on peut lui parler d'orientation, de métier.
Début de l'adolescence, oui. Au moment où, s'il en fait la demande, si c'est quelque chose qui l'aide à comprendre le sens des apprentissages, je dirais, il n'y a pas d'âge minimum, mais à partir de l'adolescence, chaque jeune commence à se dire qu'est-ce que je deviendrai à l'âge adulte. Donc, il y a quelque chose à construire aussi dans un lien de confiance entre les enseignants, entre la famille, entre le jeune, pour que se restaure la confiance en soi, la confiance dans les autres, la confiance dans l'avenir. Et enfin, je dirais qu'il y a un autre aspect très intéressant, c'est de venir en aide aussi aux enseignants, qui parfois sont désemparés, on n'a pas forcément le temps. Quand dans une classe chargée, il y a quelques élèves qui décrochent, là, on voit aussi que aider les enseignants, c'est aider à prévenir le plus tôt possible le décrochage, et donc au service de l'ensemble des élèves.
Et vous avez en exemple déjà quelques dispositifs qui donnent d'excellents
résultats. En fait, ces leviers, quand ils sont combinés, sont extrêmement efficaces. On voit que, par exemple, à l'école Pierre-Giorgio Frassati, à Saint-Cyr-l'École, donc dans les Yvelines, c'est une école primaire qui se concentre vraiment sur les élèves les plus en difficulté. L'équipe éducative et d'enseignants s'est vraiment structurée pour aller aider ceux qui sont les plus vulnérables. Et on insiste aussi sur la dimension de comportement, c'est-à-dire que un élève en difficulté va être sensible à la solidarité entre les élèves, va participer à la vie de la classe, et ça va lui remettre un pied à l'étrier pour l'apprentissage.
Mais là, vous avez cité des dispositifs un peu particuliers. Comment on fait dans les... Parce que tout le monde n'est pas... Voilà, on parlait de Pau, on parlait de Saint-Cyr l'école.
Oui,
les enfants décrocheurs, il y en a partout. Comment on fait pour intégrer ces dispositifs dans le système scolaire? Enfin, si on peut.
En fait, il y a quand même des leviers, des approches qui sont très efficaces. Parlons du climat scolaire, qui est si décisif à l'âge de l'adolescence. Un jeune qui se sent bien dans son établissement, qui se sent bien dans son groupe de pairs, avec ses autres camarades et avec les enseignants, on a fait un très, très grand pas pour qu'il passe les portes du collège avec confiance, avec sérénité. Ça, c'est pas spécifique aux élèves décrocheurs. C'est bénéfique à l'ensemble du système scolaire, par exemple. Le travail avec les familles aussi peut être extrêmement bénéfique. Travailler avec les familles, c'est se dire, même pour des parents pour lesquels l'école a été une expérience pas satisfaisante, parfois douloureuse, on va reconstruire le dialogue, reconstruire la foi dans ce que l'école peut apporter à leurs enfants.
Est-ce qu'on pourrait retravailler? Alors, je sais que parfois dans les pays nordiques, alors il y a aussi des pays anglo-saxons, où on ne regarde pas forcément les résultats en tant que tels, quoi, le 20 sur, enfin, 18 sur 20, 20 sur 20. Est-ce que là aussi, il y a un effort à faire? Parce que je pense qu'on a tous eu des enfants, des petits-neveux, machin. On voit, dès qu'ils ont des notes qui baissent, on est un peu entré dans une spirale négative.
Un cercle vicieux de la déconsidération, de l'absence de confiance en soi, dans les autres. Donc oui, tout à fait. Il y a peut-être un changement à opérer à l'échelle de notre société sur la mission de l'école. Nous, ce qu'on pense à Apprenti Dodeuil, c'est que l'école, elle doit se concentrer sur deux objectifs, si elle ne doit n'en retenir que deux. La confiance en soi, qui est fondatrice.
Oui.
Qu'on voit dans les entreprises, un collaborateur qui a confiance en lui, c'est un collaborateur qui va savoir affronter des imprévus, s'adapter, etc. Et aussi le goût d'apprendre. Le goût d'apprendre. Donc ça veut dire que s'il est acquis en âge scolaire, on va pouvoir le réexploiter, le remobiliser à l'âge adulte quand il va falloir peut-être changer de métier ou se reformer en cas de difficulté.
Benjamin Cerdas, ça veut dire quel peut être dans tout ça le rôle des entreprises? Alors certes, il y a des enfants qui font des stages en entreprise, mais enfin voilà, ça passe vite, c'est une semaine ou deux semaines quand on est en seconde. Voilà, qu'est-ce qui peut être fait dans ce domaine?
Déjà peut-être un mot sur la raison pour laquelle on doit faire quelque chose. En fait, ce décrochage scolaire, c'est un problème de compétitivité pour la France, et c'est pour ça, en tout cas qu'au BCG, on regarde ça de près. Maintenant, qu'est-ce qu'on peut faire? Alors, sur le décrochage en lui-même, il y a des dispositifs de prévention. Beaucoup d'entreprises font du mentorat. Il y a des dispositifs de rémédiation. Lucie évoquait, par exemple, des parcours d'apprentissage un peu spécifiques. Je crois qu'au-delà du décrochage scolaire, j'aime bien les deux mots que Lucie vient d'évoquer, il y a une histoire de confiance et une histoire d'envie. Et donner confiance et donner envie aux jeunes de rentrer dans l'entreprise, c'est quelque chose que toutes les entreprises peuvent faire. Par exemple, au BCG, tous les ans, on organise ce qu'on appelle une summer school. On fait venir chez nous pendant, alors c'est pas très long, pendant une semaine, mais après on les suit dans les années qui suivent, une centaine de jeunes issus de milieux modestes. Et pendant une semaine, on va essayer de leur transmettre des compétences qui sont essentielles pour avoir confiance en l'entreprise. Comment je prends la parole? Comment je résous des problèmes complexes? Et on va les exposer à toutes sortes d'entreprises de façon à faire justement naître un peu d'envie. Il y a plein de métiers passionnants, simplement quand on les connaît pas, c'est difficile de trouver un sens aux apprentissages. C'est un dispositif sur lequel on a beaucoup de succès et beaucoup de retours positifs, et on a pu le déployer chez des partenaires cette année. Un peu partout en France, on l'a fait en Ile-de-France avec AXA et Allianz, on l'a fait dans l'ouest de la France avec Armor et Airbus Atlantique, et on l'a fait dans la région de Lyon avec SEB. L'année prochaine, on a l'intention de démultiplier ce dispositif avec beaucoup plus d'entreprises partenaires, parce que justement, ça permet de travailler sur la confiance et sur l'envie d'intégrer une entreprise.
Oui, ben c'était intéressant comme session. Justement, on a fait ce lien entre la vie d'un enfant, enfin voilà, et son avenir, et justement qu'il réussisse à trouver sa voie. Et puis le côté économique, hein, parce que on le voit, ça compte sur l'économie. Je trouvais que ce chiffre était intéressant. 76 000 jeunes sont en décrochage scolaire, et ça coûte 340 000 euros par jeune. Donc au-delà de perdre des jeunes, voilà, sur leur vie, la suite de leur carrière, bien aussi ce coût économique. Donc c'est pourquoi les entreprises doivent y travailler. Merci à tous les deux d'être venus nous en parler. Benjamin Cerdas, partenaire au BCG, et Lucie Robieux, directrice du plaidoyer des relations extérieures, apprentie d'Auteuil. À très bientôt pour une nouvelle session BFM Stratégie.
BFM Stratégie sur BFM Business.